bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Ouédraogo avec vous. Très ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, eh bien, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Direction Boïkon, Bénin, pour retrouver Élisée Nkpatine. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Avec nous également en direct depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué. Bonsoir doyen.
Bonsoir Yacoubou, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Sia Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Dans Sporama de ce lundi 1er avril 2024, eh bien, les matchs aller des quarts de finale des compétitions africaines, la fenêtre FIFA et les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour ce qui est du football féminin. Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Ligue des champions CAF pour commencer avec les rencontres de la phase aller des quarts de finale. Une seule équipe s'est imposée. Il s'agit du tenant du titre Al Ahly du Caire, vainqueur 1-0 en déplacement sur le terrain des Tanzaniens de Simba SC. On fait le point avec Amin Birouk, notre consultant à Casablanca.
Champions League, hormis cette victoire de l'Ahly 1-0, l'Ahly qui a subi le jeu et qui a su frapper au bon moment face à une équipe de Simba. On a eu 3-0-0. On a eu l'impression que TP Mazembe pouvait jouer de nombreuses heures sans pouvoir percer les mystères de la défense de Petro Atlético, qui continue sa série impressionnante en défense. Ils avaient terminé la phase de groupe avec 0 but concédé. Ils continuent 90 minutes supplémentaires à améliorer ce record. Il va falloir maintenant que les Angolais puissent transformer l'essai lors du match retour à Luanda. L'équipe de l'Espérance de Tunis n'a pas su également forcer la décision face à la SEC d'Abidjan à Rades. Les Ivoiriens, en perte de vitesse, hein, en tout cas lors des dernières rencontres de la phase de groupe, ont fait l'essentiel face à une équipe en nette amélioration depuis le mois de décembre dernier, mais qui, sur ce match-là, a dû laisser ses supporters sur leur faim. Enfin, il y a eu un autre 0-0 lors d'un match a priori déséquilibré, en tout cas sur le papier, entre Young Africans, le club tanzanien, et l'équipe de Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains ont certes réussi à ramener un bon match à domicile, mais on attendait une meilleure prestation de leur part face à une équipe tanzanienne courageuse qui a su par moments malmener l'équipe sud-africaine. Néanmoins, il est certain que cette équipe de Mamelodi Sundowns devant son public risque d'être impitoyable. Il va falloir beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme pour que Young Africans puisse s'en sortir. A priori, avantage à la SEC d'Abidjan, à l'équipe de Petro Atlético et à Mamelodi Sundowns qui ont fait l'essentiel lors de ce match aller. Mais attention, avec la règle du but marqué à l'extérieur, tout est possible dans une semaine.
Bien évidemment, tout est possible. Amine le disait, 3 autres rencontres se sont soldées sur des scores nuls et vierges 0-0 à Lubumbashi. Une première dans le tournoi à domicile cette saison pour les Congolais qui recevaient, les Congolais bien sûr de tout puissant Mazembe qui recevaient le Petro de Luanda. Alors Amdine, ce but à l'extérieur des champions en titre d'Al Ahly va sans doute peser dans la balance.
Ah oui, ça va peser dans la balance puisque Al Ahly est allé quand même d'abord gagner à l'extérieur. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Comme Amine vient de le dire, si on regarde les rencontres, c'est presque 0-0-0. Seul Al Ahly a réussi à aller quand même gagner. Et ce but marqué à l'extérieur va valoir son pesant d'or, je l'espère, face à une équipe inexpérimentée, hein, puisque, comme vous le savez, les Tanzaniens qui ont été quand même les révélations de cette compétition, qui ont commencé à faire de très bonnes choses depuis quelques années. Bon, cela n'a pas suffi face aux Égyptiens qui sont très expérimentés. Ce n'est pas pour rien qu'ils détiennent le record quand même de trophées gagnés. C'est vraiment la meilleure équipe africaine de l'histoire. Donc, ils ont su montrer ça sur le rectangle vert et je pense qu'ils vont négocier à merveille cette seconde marche pour composter leur billet pour les demi-finales, Yacouba.
Alors, je le disais, le tout-puissant Mazembe et c'est le tout-puissant Mazembe, pardon, et Petro de Luanda, donc, se sont séparés 0-0. Alors, Jules, visiblement, les Congolais n'avaient pas de solution face aux Angolais.
Oui, on peut parler plutôt d'un problème de réalisme.
parce que en fait, tout au long de la rencontre, le tout-puissant Mazembe a mené des attaques incessantes contre la défense de Petro Atlético, qui a, disons, subi sans céder, sans casser. Alors, pendant cette rencontre, il y a eu multiples occasions de but. Dans les 30 premières minutes, par exemple, les Congolais ont eu 3 nettes occasions de but qui n'ont pas abouti et même une possibilité de penalty qu'après visionnage de la VAR, l'arbitre n'a pas accordé pour une supposée faute de main. Alors à la reprise, ça sera la même chose et le principal attaquant disons que dangereux qui est Kouabi, s'est retrouvé à 4 reprises face au gardien adverse, Marquez, mais il n'a pas obtenu de solution. On l'a sorti à la 66e minute, ce qui a permis à l'équipe de angolaise, au contraire, de souffler un peu. Alors, on se rend compte que le Petro de Luanda s'en tire plutôt très bien, mais 1-0-0 est un score piège parce que cela, l'équipe et disons que qui jouait à domicile n'a pas encaissé de but, il lui suffit d'avoir un nul avec but à l'extérieur et elle passe automatiquement l'étape. Donc le suspense reste entier.
0-0 également entre l'autre club tanzanien, Young Africans, et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Élisée, on va dire, hein, jusqu'ici, les Tanzaniens résistent face aux Sud-Africains.
Et bien évidemment, et encore que sur cette rencontre, les Tanzaniens pouvaient remporter le gain de la partie, même si les Sud-Africains les ont dominés de bout en bout, parce qu'on sait qu'en matière de possession, eh bien, Mamelodi Sundowns pratique un football purement technique, hein, avec un jeu qui ressemble tellement au football latin. Vous imaginez, donc c'est un peu ça, les Tanzaniens peuvent se contenter de ce nul. Et comme vient de le dire hein, Jules Valentin Ngo, eh bien, il faut faire très attention à ce résultat, c'est un résultat piège, le nul sans but, puisque la règle du but marqué à l'extérieur continue toujours de sévir en Afrique. Et en cas de nul, 1-1 ou 2-2 ou 3-3 à l'extérieur, eh bien, l'équipe qui a concédé le nul piège à domicile peut passer. Donc, c'est dire que c'est un bon résultat pour les Young Africans, qui est champion en titre hein, du championnat tanzanien, les clubs tanzaniens qui se comportent très bien, même si Simba a été fait à domicile par le tenant du titre, comme vous imaginez. Donc, les Young Africans continuent de suivre, en tout cas, ne serait-ce qu'une semaine, puisque le match tout aura lieu en fin de cette semaine.
À Tunis, l'Espérance s'est heurtée à une solide défense de la SEC d'Abidjan, érigée par l'entraîneur français Julien Chevalier, satisfait de l'attitude de ses joueurs.
Je tiens déjà à féliciter l'état d'esprit de mes joueurs qui ont su s'adapter, qui ont su faire le tour un petit peu dans une période difficile et un match compliqué face à un très très bon adversaire, on le savait. On espérait pouvoir mieux faire au départ de la rencontre et puis on s'est aperçu que c'était difficile ce soir, donc on s'est mieux réinstallé en deuxième période pour bien défendre. Donc il faut les féliciter de l'avoir bien fait.
Julien Chevalier, entraîneur de la SEC d'Abidjan. Alors Amdine, voyez-vous les Ivoiriens s'imposer à domicile au match retour?
Oui, Élisée, parce que ces genres de matchs, il faut savoir les négocier. Et les Ivoiriens ont négocié ces premiers matchs à merveille. Julien Chevalier a raison d'être satisfait de ses poulains, puisque si on regarde le match, vraiment, ils ont tenu bon grâce à une bonne organisation défensive, technico-tactique. Donc, il fallait faire ça et ils l'ont fait. Maintenant, mes confrères l'ont dit, les résultats 0-0 à l'extérieur, c'est des résultats pièges, puisque en Afrique, le but marqué à l'extérieur compte double en cas d'égalité. Donc, c'est un résultat piège. Et les Ivoiriens, ils le savent très bien. Donc, maintenant, il faut savoir négocier la seconde match. Et Julien Chevalier, un bon entraîneur, très expérimenté, je pense qu'il va trouver la formule magique pour pouvoir sortir de cette seconde match. En tout cas, il fallait négocier cette première match et ils l'ont négocié. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de regrets côté tunisien, puisque les sangs et or se sont créés beaucoup d'occasions sans pour autant les concrétiser. Maintenant, on va voir ce qui va se passer lors de la seconde match à Yakouba.
Les matchs retour, en tout cas, sont prévus à la fin de cette semaine. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. Nous revenons dans quelques secondes. À présent, le stade malien de Bamako a plié les Chines 2-1 devant les Ghanéens de Dreams FC. Un score acceptable selon son entraîneur Mamoutou Kané qui pense réagir au match retour.
Quand vous perdez le match, il n'y a pas d'excuse. J'assume la responsabilité. De toute façon, ce que les enfants ont donné aujourd'hui, ils ne pouvaient donner que ça. Moi, je suis très fier de ces enfants-là. Et finalement, même 2-1, ils ont réussi. Les muscles ne répondaient pas. Je ne vais pas critiquer qui que ce soit. Et j'assume la responsabilité. Tout ce qui arrive à l'équipe, là, je l'assume. Que ça marche, que ça ne marche pas, c'est à moi de tirer les conclusions. On va préparer le match retour, comme c'est aller-retour. Tout est possible. Je crois à mes forces, moi, et je crois à mon équipe. Je suis sûr et certain qu'on va faire un très bon match.
Mamoutou Kané, dit Mourlet, entraîneur du stade malien de Bamako, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale du Mali. Alors, Élisée, les garçons de Mourlet devront tout donner quand même pour tenter de renverser la vapeur au match de tout à Koumassi dimanche prochain.
Ça va être très difficile, hein, Yakouba, au vu de leur prestation de la rencontre aller puisqu'ils ont craqué. Vous avez entendu Mamoutou Kané qui l'a dit, et à un moment donné, eh bien, ils n'ont pas su répondre physiquement puisque ils ont pris l'avantage. Hein, n'oublions pas, avant de craquer vers la fin de la rencontre, grâce à ce doublé de ce jeune attaquant ghanéen John Atui qui a quand même brûlé les rêves de ne serait-ce que de remporter d'abord la manche aller. Donc ça va être très difficile face à cette équipe ghanéenne très joueuse qui a causé d'énormes problèmes à ces Maliens qui quand même ont bien entamé la rencontre mais n'ont pas pu résister jusqu'à la fin puisque physiquement ils n'ont pas pu tenir. Donc on espère que les Maliens vont réagir puisque c'est un duel ouest-africain et quand il s'agit de ce duel-là, quand des clubs de la sous-région se rencontre, on sait comment ça se termine, donc on espère que les Maliens vont réagir. Pourquoi pas aller chercher les prolongations et remporter au tir au but.
Belle performance en attendant, en tout cas pour le Zamalek du Quai. Les Chevaliers Blancs se sont imposés dans le derby Kairot en battant Futur FC 2-1. Alors Jules, une chose est sûre, l'Égypte aura un représentant en demi-finale et le Zamalek semble être bien parti.
Oui, dans ce match fratricide qui opposait Zamalek à Modern Future, c'est le passé qui affrontait le présent. Et Zamalek, ça, c'est l'éternel rival de National Al Ahly. Et tandis que Modern Future fait partie de ces équipes qui sont venues en quelque sorte essayer de modifier le paysage sportif et footballistique, plus précisément en Égypte. Et là, Zamalek qui a fait une première étape de match de poule exceptionnelle et est toujours dans sur sa lancée puisqu'il est parti gagner le match sur le terrain adverse et par 2-1, donc 2 buts marqués à l'extérieur. Donc je crois que là le suspense est plutôt relativement tombé. Je crois que Zamalek qui a à cœur de revenir au haut niveau comme sa dernière performance datant de 2019 contre la Renaissance Berkane en Coupe de la CAF, justement, va tout faire pour maintenir ce résultat et seul un tremblement de terre peut l'en empêcher.
Voilà, seul un tremblement de terre peut l'en empêcher. Amdine, de leur côté, les Nigériens du Rovers United ont assuré l'essentiel 1-0 devant les Algériens de l'USM Alger, tenant du titre.
Oui, c'est une très, très bonne opération pour les Ghanéens.
Hein, les Nigériens.
Les Nigériens, autant pour moi. Puisque Ousmane est une très grande équipe, hein, donc il fallait négocier pour voir comment remporter cette première match. Et ils l'ont fait. Et je pense que ce résultat d'un but à zéro peut assurer une qualification. Maintenant, comme c'est un match aller-retour, il faut aller négocier la seconde manche en faisant quoi? En défendant très bien et en essayant de marquer. Si jamais les Nigériens parviennent à marquer un but, ce sera presque une qualification quasi assurée. Mais, comme vous le savez, c'est très difficile toujours d'aller jouer dans des pays comme l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, puisque ces équipes ont des joueurs très expérimentés qui savent jouer ces grands matchs. C'est des matchs à tension qu'ils savent négocier, mais j'ai confiance à ces Nigériens qui ont réalisé une bonne performance. Maintenant, on va attendre la seconde manche pour voir ce que cela va donner.
En attendant, bien sûr, cette seconde manche, pas de vainqueur entre les Libyens d'Abou Salem et les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Zéro but partout. Le point avec Amin Birouk.
C'est un bon résultat pour la Renaissance sportive de Berkane qui s'est déplacée, qui a dû recourir aux grands moyens sur le plan logistique pour rallier Benghazi avec un vol Casablanca Le Caire, puis Le Caire Benghazi, pour pouvoir bien évidemment être prête sur le plan logistique à arriver en Libye. Et sur le plan tactique, on a vu une équipe très au point. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. La Renaissance sportive de Berkane a disposé d'opportunités sur coup de pied arrêté, notamment Fahli à la 30e minute, qui aurait pu au second poteau, à bout portant, ajuster un peu mieux sa reprise de la tête pour pouvoir surprendre le gardien adverse. L'équipe d'Abou Salem, très bien organisée, qui a joué avec ses propres moyens, mais on a eu l'impression que la RSB a joué un peu au chat et à la souris. Seul regret, le fait de ne pas avoir marqué. Donc il va falloir être très vigilant au match retour à Berkane devant son public. A priori, la RSB part avec la faveur des pronostics, mais attention, les Libyens n'ont pas dit leur dernier mot et ils seraient capables, en cas de jour sans SANS de l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane, de surprendre. En tout cas, ce 0-0 laisse beaucoup de suspense, même s'il met en ballotage favorable les doubles vainqueurs de la Coupe de la CAF en 2020 et 2022.
La semaine dernière s'est jouée la fenêtre FIFA avec beaucoup de pays africains sur le plancher, donc pour des matchs amicaux. Entre autres rencontres, les champions d'Afrique en titre étaient attendus. Emers Faye et ses poulains ont concédé le match nul devant le Bénin avant d'arracher une victoire 2-1 face à l'Uruguay. Élisée, on va dire que c'est une fenêtre FIFA réussie quand même par la Côte d'Ivoire.
Réussi par la Côte d'Ivoire, on peut le dire comme ça, puisque l'autre adversaire est un adversaire de renom. Oui, puisque les Ivoiriens ont mal entamé cette fenêtre FIFA par ce nul concédé contre le Bénin, puisque à deux fois, ils sont revenus au score, puisque le Bénin, à chaque fois, prenait l'avantage, vous imaginez. Donc, c'était un match où ils se sont pas bien illustrés et face à une équipe béninoise très bien organisée pour une première fois. C'est vrai que depuis l'arrivée de Guénot Roy, eh bien, lors des rencontres amicales, on voit une très belle sélection béninoise. Mais quand il s'agit des rencontres officielles, eh bien, le Bénin passe tout simplement à côté. Donc, c'est la seule faute note qu'on peut mettre à l'actif du technicien franco-allemand. Sinon, côté ivoirien, c'est vrai que ça a mal commencé, mais ça s'est bien conclu par cette belle performance contre l'Uruguay. En tout cas, MS Faye sait désormais à quoi s'entendre, puisque là, il n'était pas tellement attendu à la CAN, puisque c'était pas lui le titulaire. Il a fallu que Jean-Louis Gasset soit débarqué pour qu'il prenne sa place et amener la Côte d'Ivoire au sommet du football africain. Désormais, on le verra sous un autre œil, puisque là, il aura toutes les pressions et ça commence déjà par les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada, puis au Mexique, puisque là, quand il fera un faux pas, il sera critiqué. Donc, c'est-à-dire que le challenge est désormais énorme pour le technicien ivoirien.
Bien évidemment, c'est cela aussi, le football. Alors, Amdine, le même Bénin s'est mesuré au champion 2021, le Sénégal, qui semble se relever de sa CAN difficile 2023.
Tout à fait, Yacouba. Après l'échec face à la Côte d'Ivoire, il fallait repartir du bon pied. Et les Lions l'ont fait, puisque sur cette fenêtre FIFA, on peut dire que c'est réussi. Ils ont disputé deux matchs. Ils ont gagné les deux. Ils ont battu le Bénin d'abord. Ils ont battu le Gabon par 3-0 avant de battre le Bénin par 1-0. Donc, si on regarde les deux matchs, c'est 4 buts marqués sans en encaisser. Donc, on a vu une défense imprenable. Mais pour le contenu, il faudra encore repasser parce que le contenu reste un peu à désirer. Mais l'autre satisfaction, il faut le dire, le sélectionneur avait promis de faire tourner son effectif et il l'a fait. Puisqu'il y a eu le jeune joueur de Barcelone, Michael Ngor Faye, qui a été testé contre le Bénin et pour un coup d'essai, il a reçu un coup de maître puisqu'il a réussi à marquer un but extraordinaire d'une frappe limpide. Donc, c'est aussi une bonne satisfaction. Seule fausse note, c'est Amara Diouf. Amara Diouf, le jeune qu'on attendait, il n'a eu à jouer que 8 minutes, 8 minutes sur les deux matchs. On attendait plus puisque c'est une pépite. C'est le plus jeune joueur, le plus jeune international de l'histoire du Sénégal. Il n'a que 15 ans, mais ce n'est que partie remise puisqu'il a déjà joué. En tout cas, si on regarde ces deux matchs, cette fenêtre FIFA a été réussie pour l'équipe nationale du Sénégal qui a battu ses deux adversaires, mais ce n'est pas avec la manière Yacouba.
Et justement, parmi ces deux adversaires, vous le disiez, le Gabon, Jules, on se demande, 3-0 quand même face au Sénégal, ce n'est pas très rassurant.
Parce que le match n'a pas été préparé en fait et que il y avait jusque-là des problématiques qui se posaient, notamment l'intégration d'un des attaquants les plus en forme en France qui est Aubameyang et qui n'a pas encore regagné la sélection, mais qui a accepté de revenir et il y a eu une entente au sommet d'une équipe. Donc, je crois que ces équipes-là se remettent en marche petit à petit et celles qui sont bien exprimées comme le Sénégal, le Maroc, et sont des équipes qui sortent d'une grande compétition, la Côte d'Ivoire qui sort d'une grande compétition, dont elles sont encore homogènes. Je crois que on pourra tirer les leçons des défaites comme des victoires.
De son côté, après sa victoire justement poussive face à l'Angola 1-0, le Maroc a dû se contenter d'un match nul 0 but partout mardi dernier au grand stade d'Agadir face à la Mauritanie. Amine Birouk fait le point.
On peut parler d'un bilan mitigé où il y a eu quelques motifs de satisfaction, notamment les nouveaux venus, Elias Benserer et Ibrahim Diaz, qui ont su s'insérer dans le collectif et prouver qu'ils avaient largement leur place et qu'ils pouvaient largement amener l'équipe du Maroc vers d'autres perspectives, notamment prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde et puis d'autres échéances, puisqu'on pense qu'au Maroc beaucoup plus à la CAN qu'organisera le Royaume chérifien. Et puis des motifs d'inquiétude, puisque lors du match face à la Mauritanie, l'équipe a fait preuve d'une flagrante stérilité sur le plan offensif. Visiblement, la connexion Brahim-Hakim, on parle de Brahim Diaz et de Hakim Ziyech, n'a pas totalement fonctionné. On sait que le public marocain est très versatile et qu'il a tendance aussi à brûler aujourd'hui ce qu'il a adoré hier. Et on remet en cause, une bonne partie de l'opinion publique a remis en cause la légitimité de Walid Regragui. Aujourd'hui, il passe pour ne plus être l'homme de la situation selon certains. Et ce qui est certain aussi, c'est que cette équipe du Maroc va devoir cravacher dur pour pouvoir proposer une autre animation offensive, prendre le jeu à son compte, jouer contre des blocs hyper défensifs renforcés. C'est un peu l'examen que n'a toujours pas réussi à passer le sélectionneur national, puisque lors du match face à l'Angola, ça a été un CSC qui a permis au Maroc de l'emporter. Face à la Mauritanie, il y a eu quelques tentatives, quelques occasions qui n'ont pas été exploitées. Ce manque d'efficacité offensive face à un bloc défensif renforcé, cette perspective de devoir avoir l'initiative, faire le jeu, c'est un peu le cauchemar maintenant de tous les joueurs du milieu de terrain, de l'attaque marocaine et du sélectionneur national. Aujourd'hui, c'est un peu le challenge à relever. Il va falloir le faire très vite. Walid Regragui doit très vite revoir sa copie, puisqu'il aura dans 2 mois 2 rencontres, et cette fois-ci, elles n'auront rien d'amical. Il s'agira des éliminatoires de la Coupe du Monde, à domicile à Agadir face à la Zambie, surtout en déplacement à Brazzaville face au Congo. Il faudra prendre les 6 points, sinon ça jasera du côté des foyers marocains, et une nouvelle fois, on reparlera du cas Walid Regragui, héros après le mondial du Qatar, et peut-être zéro, selon certains, après la CAN et surtout après ses dernières échéances amicales.
Ben écoutez, c'est cela aussi le foot. On applaudit quand ça va et puis qu'on commence à critiquer quand ça commence à ne pas aller. En tout cas, en attendant, sachez que 4 équipes sont en lice. 2 rencontres donc, 2 places à prendre à l'issue de la double confrontation entre l'Afrique du Sud et le Nigeria et le Maroc et la Zambie. Nous parlons bien évidemment des éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024. Football féminin sur le continent. Les matchs aller sont prévus pour ce 5 avril et ce retour le 9. Merci à vous d'avoir suivi ce programme réalisé par Michel Joseph.